RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
C'est l'un des marqueurs de l'enseignement de l'Église, l'attention aux plus pauvres, ce souci du partage, de la solidarité et de l'aide aux plus fragiles apparaît dès les premières communautés chrétiennes. Les plus grands saints ont vécu dans la pauvreté et les religieux en font le vœu. Mais alors pourquoi l'Église a-t-elle le souci des pauvres? Quelle est réellement d'ailleurs leur place dans l'institution? On en parle ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos invités. Et notez que dans la seconde partie, on prendra l'exemple de la diaconie qui organise cette charité avec un vaste réseau associatif. On prendra quelques exemples à partir de 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce qu'être chrétien et avoir une attention pour les plus pauvres, c'est indissociable d'après vous? Est-ce que l'Église fait suffisamment? Et avez-vous des engagements en ce sens? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Pauline de Torchiac ce matin. Bonjour Pauline.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. De Saint-Martin déchirant son manteau à François d'Assise qui fit la pauvreté une vertu jusqu'à Saint-Vincent de Paul recueillant dans ses bras les enfants abandonnés. Les images qui illustrent cette attention aux plus pauvres sont nombreuses. On retrouve cette mission de l'Église dans la Bible, les textes conciliaires, les encycliques, les psaumes. La diaconie fonde même les engagements sociaux des chrétiens depuis toujours. Alors que signifie plus précisément la diaconie, sur quel fondement l'Église s'intéresse-t-elle aux plus pauvres? Que disent les évangiles sur la pauvreté? Quel visage se cache aujourd'hui derrière la pauvreté? Et est-ce que les pauvres ont une juste place dans l'Église aujourd'hui? Eh bien, on en parle avec nos trois invités aujourd'hui, Melchior.
Oui, qui sont avec nous jusqu'à 10h.
Oui, et depuis RCF Besançon, on accueille frère Nicolas Morin. Bonjour frère.
Bonjour.
Vous êtes franciscain. À Toulon, on retrouve Gilles Rebèche. Bonjour Gilles Rebèche.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes diacre depuis 40 ans. Vous êtes le fondateur de la Diaconie du Var, qui fédère les initiatives d'église à destination des plus pauvres dans le diocèse de Fréjus-Selon. Vous avez reçu la Légion d'honneur il y a quelques jours, justement, pour ce travail mené auprès des plus démunis. Et puis, en duplex de notre studio RCF à Paris, Étienne Villemain. Bonjour.
Bonjour Pauline.
Vous êtes le fondateur de Lazare, cette colocation entre les personnes de la rue et les jeunes actifs. Puis vous avez fondé Fratello. Ce sont deux mouvements importants qui sont justement dédiés à rendre aux plus pauvres un toit, une dignité. Et vous êtes aussi l'homme qui a murmuré à l'oreille du pape François l'idée de créer la journée mondiale des pauvres. Et aujourd'hui, vous menez un autre projet, c'est celui du village de François, un lieu de vie partagé pour les personnes fragiles. Alors, je vais vous poser une première question à tous les trois, parce que ce soit en prenant l'habit de Saint-François d'Assise, en devenant diacre ou en menant tous ces projets pour que les pauvres trouvent une place dans la société, qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie? Étienne Villemain, pour commencer peut-être.
Je pense que depuis toujours, l'Église aime les pauvres et c'est Jésus lui-même qui nous appelle à aimer les pauvres. Et moi, c'est ça qui me touche le plus. Quand Jésus dit « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Celui qui accueille ce petit en mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Je pense que c'est des paroles qui sont pleines d'actualité. Aujourd'hui, il y a des pauvres partout. C'est une évidence de plus en plus. Alors, les formes de pauvreté sont très, très différentes. Mais à chaque fois, c'est un même cri et nous devons, nous chrétiens, être proches des pauvres et des petits. Et en les rencontrant, on rencontre le Christ lui-même. Et puis aussi, ça nous permet de nous rendre compte que nous-mêmes, nous sommes des pauvres. Celui qui est pauvre, pour moi, c'est celui qui est en dépendance. C'est celui qui a besoin et nous avons besoin du bon Dieu. Nous avons besoin de nos frères pauvres et ça bouleverse la vie. Moi, j'ai commencé à vivre en colocation avec des personnes de la rue il y a à peu près 18-19 ans. Et quand j'ai commencé cette expérience, je pensais le faire 6 mois. Et en fait, j'ai vécu pendant des années. Alors maintenant, avec ma femme et mes enfants, on vit plus directement avec les personnes de la rue. Mais pendant des années et des années, je l'ai fait et ça m'a rendu profondément heureux. Ça a bouleversé ma vie. Et je pense que Gilles, comme notre ami franciscain, pour nous dire la même chose, c'est que vivre avec les pauvres, ça nous bouleverse, ça nous transforme et ça fait que on n'est plus les mêmes et ça nous rend plus humains et plus proches du bon Dieu, j'ai l'impression.
Gilles Rebèche, vous qui êtes engagé dans cette mission aussi depuis 40 ans dans le décès de Fréjus Toulon, quelle était votre intuition de départ? Qu'est-ce qui vous a sensibilisé à cette question de la pauvreté?
C'est plutôt mon éducation, mon milieu d'origine. J'étais d'une famille qui fréquentait pas l'église. Grandi en HLM, ma grand-mère était analphabète. Et moi-même, j'ai eu la grâce dès l'âge de 8 ans de rencontrer un prêtre là, qui faisait du porte-à-porte à Fréjus, dans les HLM, et qui m'a ouvert à la prière, à la vie spirituelle. Et je trouvais toujours trop injuste qu'on considère que l'église, c'était que pour les gens des villas, comme disait ma mère. Et alors que je trouvais là, dans le message de Jésus, une énergie incroyable pour avancer, pour trouver du dynamisme. Alors, c'est une sorte d'engrenage. Enfin, pour moi, l'expérience spirituelle, la rencontre des frères différents de mon milieu, ça m'a ouvert à des horizons, d'universalité. Et pour moi, la rencontre des plus pauvres pour l'Église, c'est ce qui lui permet de s'ouvrir aux autres. Parce que quand on va toucher le plus petit, ben finalement, on touche tout homme. Parce qu'on est tous confrontés un jour ou l'autre à la précarité. Dans la sagesse de ma grand-mère, elle disait toujours, et tu vois, les gens du, ben, elle était métayée dans un château, elle disait, mais toi, on a de l'avance sur eux parce que un jour ou l'autre, quand ils sont confrontés à la maladie, à la solitude, ils réalisent qu'ils sont pauvres eux aussi. Alors, je trouve que cette option préférentielle pour les pauvres, d'une certaine manière, c'est une voie de sagesse, c'est une voie d'équilibre pour ce qu'on appelle même le développement humain, le développement communautaire. Et moi, j'ai été amené de manière pragmatique après à offrir des accueils de jour ou des foyers parce que mon évêque me l'a demandé quand j'étais diacre. Mais ce qui m'avait touché, c'est que un des premiers accueillis à l'accueil de jour au restaurant social de Jéricho à Toulon, j'ai retrouvé, il me regardait curieusement et puis finalement j'ai découvert que c'était le chef des enfants de chœur à la cathédrale de Toulon quand j'étais gamin et qui était à la rue. Et d'une certaine manière, c'était comme un petit clin d'œil d'une fraternité qui se tissait. Et je pense que le choix des plus pauvres, on est sûr de n'oublier personne.
On sent ce fil de conducteur. Frère Nicolas Morin, vous avez choisi d'être franciscain, c'est pas un hasard, j'imagine aussi.
Oui, j'avais 15 ans lorsque j'entendais cet évangile du jeune homme riche qui vient voir Jésus en disant « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus qui lui répond « Mais si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et puis viens, suis-moi. » Et cet évangile, il m'a complètement retourné. Et puis la même année, j'ai découvert Saint François. Saint François qui a fait une rencontre. Et je crois que nos vies, elles sont transformées par des rencontres très concrètes. François, il fait la rencontre d'un lépreux. Hein, et il nous dit dans son testament, « Lorsque j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, alors ce qui était amer se transforma en douceur. » C'est-à-dire que ce qui se passe dans la vie de François, c'est que c'est plus un homme riche en surplomb qui se penche vers le pauvre. Le lépreux, il y fait l'immense cadeau de se réconcilier avec sa propre pauvreté. C'est-à-dire ces deux frères qui se rencontrent. Et pour moi, c'est ça de plus en plus. C'est-à-dire que finalement, le premier pauvre que j'ai pu rencontrer sur ma route, c'est moi-même. Et que les personnes plus pauvres, elles m'ont permis d'apprivoiser ma propre pauvreté. Et j'ai envie de dire, ben aujourd'hui, c'est pas tellement des pauvres que je rencontre, c'est des frères, des sœurs, et j'ai envie de nouer avec eux ces relations de fraternité.
Alors, Gilles Rebèche, on le voit bien que cet engagement aussi à l'égard des pauvres, c'est un peu dans l'ADN de l'Église. Quelle est l'origine de vous êtes diacre. Quelle est l'origine de la diaconie finalement et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ce service justement institué par l'Église pour les pauvres.
Ben, le mot diaconie, c'est le mot le plus utilisé dans les textes évangéliques dans le Nouveau Testament. Simplement, on l'a traduit par ministère, par collecte, par entraide. Il me semble que un des lieux où il apparaît de façon la plus lumineuse, c'est que dans l'Évangile, Jésus a beau faire des miracles, nourrir les foules, soigner des malades. Dès qu'il a le dos tourné, ceux qui sont autour de lui ne discutent pas de sa prédication, mais s'interrogent pour savoir qui est le premier. Dès le début, il y avait des espèces de petits conflits de pouvoir, qui est le meilleur. Et à chaque fois, Jésus, avec beaucoup de pédagogie, il s'arrête et puis il essaie de les réajuster, de faire bouger les lignes. Dans l'évangile de Luc, il n'y a qu'une fois où il dit « je suis » comme l'Éternel le disait dans le buisson ardent à Moïse. Il dit « je suis au milieu de vous comme celui qui exerce la diaconie », qu'on a traduit « je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Donc c'est d'abord l'identité de Jésus qui essaie de se mettre à nos pieds. Chez Saint Jean, c'est Jésus qui lave les pieds de ses disciples, qui regarde les choses par en bas et pas par en haut. Donc le mot « dia », ça veut dire en travers. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'action transversale, à pas confondre avec le « dia » de « diable » qui veut dire « de travers ». Et « koinos diakoni », c'est le travail, le service de terrain qui colle à la poussière. Alors, dans l'Église, dès les origines, on a appelé la diaconie jusqu'au 5e siècle, tout ce qui permettait à l'Église de continuer de coller au terrain. Et en particulier, dans une tenue de service, et avec une attention à ceux qui étaient les plus fragiles, mais aussi aux étrangers, aux malades, même aux barbares, aux ennemis, pour essayer de garder cette convivialité. Et puis après, ce mot a disparu pendant des siècles, après la période constantinienne. Il est réapparu au moment des réformateurs, Luther et Calvin, qui ont retrouvé ce vocabulaire de la diaconie, parce qu'ils retournaient aux sources, ils retournaient dans les textes des origines. Alors à partir de ce moment-là, dans l'Église catholique, on n'en a plus parlé, parce que, comme dans les divorces, ce qu'on a aimé, on le haït. Et puis, de manière miraculeuse, c'est dans l'Église universelle, c'est Benoît XVI, quand il a été élu pape, sa première encyclique, Deus Caritas, Dieu est amour, il a fait tout un chapitre sur la diaconie, en rappelant que tous les diocèses du monde devaient redévelopper des diaconies. Et nous, ici, dans le diocèse de Toulon, ça faisait 20 ans qu'on avait une petite diaconie à l'initiative de Mgr Gilles Barthes. Et à ce moment-là, on a eu des gens qui sont venus de partout en disant « mais c'est quoi la diaconie ?» Et ce que l'on pensait universel, d'une certaine manière, a été remis à l'honneur par Benoît XVI, qui a remis à nouveau frais cette question de tout temps de l'option préférentielle pour les pauvres, de la charité avec le Christ, à partir du Christ, et du service de la fraternité en s'appuyant sur les plus fragiles.
Et on en parle ce matin dans Je pense donc j'agis, on parle de cette attention aux plus pauvres hein, dans l'Église, dans l'institution. Dites-nous si vous, en tant que chrétien, avoir une attention pour les plus pauvres, c'est totalement indissociable. Est-ce que l'Église fait suffisamment d'ailleurs? Et puis parlez-nous de vos engagements en ce sens, on vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Pauline, on continue avec nos trois invités ce matin, frère Nicolas Morin, Gilles Rebèche et Étienne Villemain.
Étienne Villemain, justement, Gilles Rebèche le disait, parlait de Benoît XVI et qui a remis finalement au cœur la notion de diaconie, la charité. Jésus, en se faisant homme, incarne cette pauvreté, cette fragilité. C'est important de puiser aussi dans les évangiles.
Je pense que c'est la source, l'évangile, c'est la source et ça nous aide. Moi, j'aime bien dire que vivre avec les pauvres, être proche des pauvres, ça nous évangélise. C'est-à-dire que on vit l'évangile. Par exemple, je me souviens une fois avec Martin, on prépare un repas pour des personnes. On lançait des repas de l'amitié, des comme des tables ouvertes paroissiales, si vous voulez, mais pour toutes les personnes de la rue. Et puis le vendredi soir, on faisait les courses. Et puis le dimanche matin, on préparait le repas. Et Martin m'appelle et me dit regarde dans la gamelle. Je dis bah oui, il y a plus rien. Il me dit ouais, il y avait pas un steak de trop, il y avait pas un steak de moins, il y avait pile le bon nombre de steaks. Et comme si le bon Dieu avait voulu dire, tu vois, chacun de ces exclus, je les ai choisis, ce sont des élus. Et puis les oiseaux du ciel ni ne sèment ni ne moissonnent, pourtant ils ont de quoi manger. Et vous voulez plus que les oiseaux du ciel. Et en fait, à plein de moments, j'ai découvert que la providence était une réponse directe du bon Dieu et nous permettait de vivre en fait. Tout simplement l'évangile en vivant avec les personnes fragiles. Une fois, je croise une personne dans la rue, je le croise 6 mois plus tard et je lui dis bah, « Viens, il veut se reposer, déjeuner à la maison » et il boite. Alors je lui dis bah, « Retire tes chaussures, on va regarder » et puis il se met au bord de la baignoire, il retire ses chaussures et je lui dis bah, « On va regarder, il faut qu'on lave tes pieds. » Et en fait, il a du mal à se pencher parce qu'il a mal au dos. Et donc, j'ai dû lui laver les pieds. Et vous voyez, c'est l'évangile. Jésus qui lave les pieds et qui dit « Faites de même ». Eh ben, comme pour nous piquer un peu au vif, il nous met dans une situation où on va vivre l'évangile. Donc, je pense que il y a quelque chose que j'aime énormément chez Saint François. C'est cette double dimension. À la fois, il est proche des pauvres, il embrasse les lépreux, il est proche des petits, etc. Et en même temps, il est profondément configuré au Christ. Il est agrippé. D'ailleurs, il vit la passion. Il a les stigmates. Et ce que je trouve d'important dans notre Église, c'est quelquefois, on va faire que du social et on va oublier la dimension spirituelle. Ou alors, on va faire que du spirituel puis on va oublier la dimension des pauvres. Et Saint-François, lui, il fait la synthèse extraordinaire des deux. Il a ces deux dimensions de la croix, horizontale et verticale. Et c'est ce qui nous est invité à vivre, nous les chrétiens, et même si on n'est pas chrétien, de le découvrir. En tout cas, c'est cette foi et cette attache profonde des pauvres. J'aime bien une parole que dit Mère Teresa, elle dit « Cherchez les pauvres, trouvez-les, aimez-les ». Et autour de nous, il y a des pauvres, il y a peut-être une petite grand-mère, une tante qu'on va pas voir suffisamment, et quand on l'embrasse, elle pique, elle est un peu désagréable, parfois elle sent un peu le pipi, mais on oublie d'aller la voir, on oublie de prendre soin de ces gens parce qu'ils nous fatiguent, ou alors quand on discute avec eux, ils restent des heures et des heures à nous bavasser, etc. Et en fait, Mère Teresa dit « Cherchez les pauvres, trouvez-les, aimez-les ». Et c'est ces gens-là qui ont beaucoup à nous apporter. Donc, cherchons les pauvres, trouvons-les et aimons-les.
Frère Nicolas Morin, vous êtes d'accord avec ça? C'est cette, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, cette relation finalement d'égal à égal?
Oui, l'expérience franciscaine, c'est une utopie incroyable. C'est-à-dire que au sein même de la fraternité, dès le début, il y a des frères de tous horizons sociaux. C'est-à-dire que les pauvres, c'est pas ceux qui sont extérieurs dont on s'occupe. C'est ceux qui viennent nous rejoindre pour vivre et partager la fraternité. Vous voyez, moi, il y a un évangile qui me guide depuis toujours, c'est celui des invités au festin. Vous avez cet homme qui prépare une noce et puis tous ceux qu'il a invités viennent pas, ils ont tous des bonnes excuses. Alors il dit, bah, allez, invitez, tous les pauvres là, tous les estropiés, tout ce. Et pour moi, c'est ça la fraternité. Le dimanche, on fait table ouverte chez nous à la fraternité. Et, bah, hier, on avait autour de la table Valère qui est réfugié congolais. On avait un autre jeune qui est venu juste après la messe parce que sa copine venait le plaquer. Il avait besoin d'en parler. Et voilà, c'est normal. Et pourquoi? Parce que dans notre fraternité même. On est de tous horizons, et que lorsqu'on a rencontré sa propre pauvreté, on peut s'ouvrir et devenir réellement frère. Et pour moi, c'est ça évangéliser. C'est-à-dire que Jésus, il fait pas autre chose que ça. C'est-à-dire qu'il part sur les routes, il se fait itinérant comme les personnes les plus précaires de son époque, et simplement il se rend présent pour leur dire mais toi aussi, tu es aimé de Dieu. Et pour moi, si j'ai pu transmettre un peu de cette bonté, de cette tendresse de Dieu, Bah alors, il n'y a pas plus grand bonheur.
Alors, c'est intéressant ce que... Oui, allez-y, Étienne.
Je trouve votre la référence du texte superbe. Et ce que je trouve aussi, c'est qu'il va chercher des boiteux, des estropiés, et à la fin, il dit « Et ta joie sera grande ». Et en fait, moi, je voudrais dire à notre société qui crève de tristesse, mais... Purée, mais invitez les pauvres et vous allez voir, votre joie sera grande. Allez pas chercher des riches voisins ou des gens dont vous pensez qu'ils vont vous servir ou ils vont vous donner quelque chose. Allez chercher ceux à qui vous allez donner quelque chose et vous allez voir comme la joie va vous remplir, va rayonner, va rebondir. Quand on a commencé dans les colloques avec Martin, on pensait faire ça quelques mois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, on a vu que ça nous transformait et que ça faisait du bien autour de nous. Et je suis sûr par exemple que la fraternité que vous vivez, frère Nicolas, ça rayonne et que ça attire des gens et des gens encore plus pauvres, etc. Et que ça nous révolutionne à l'intérieur d'une certaine façon et ça apporte la joie. Donc en fait, vivre avec les pauvres, c'est un grand cadeau. Ça nous apporte la joie et ça, c'est comme RCF, c'est cette joie qui nous nourrit, quoi.
Et qui se partagent. Vous l'avez tous un peu évoqué, ces visages de la pauvreté. Alors le boiteux, l'estropié, le migrant, la vieille dame, mais aussi Gilles Robèche parlait finalement de cette pauvreté chez une personne plus aisée. À quoi ressemble finalement la pauvreté? Comment est-ce qu'on la définirait selon vous? Parce que finalement, elle est partout. Qui veut commencer? Je ne sais pas. Gilles Robèche peut-être.
Bien, pour moi, la pauvreté, c'est quand on a conscience que on a besoin de l'autre et du tout autre. La pauvreté, souvent, se manifeste aussi par le sentiment de honte. Des gens qui ont le sentiment d'avoir honte d'exister, le sentiment de servir à rien, de ne pas être aimable. Et on voit bien, comme le dit le pape François, que finalement... L'option préférentielle pour les pauvres, c'est d'abord la culture de la rencontre. Ce matin, en venant au studio, sur le siège de l'Abribus, il y avait un monsieur africain d'origine nigériane, Agostino, avec qui on a causé. Il m'a raconté, je ne le connaissais pas, et il m'a raconté son périple, comment elle avait traversé la mer. Et quand je lui ai dit, mais alors comment tu as fait? J'ai travaillé en Algérie pour pouvoir payer les passeurs. Et il dit, ça a été difficile de traverser la mer. Et là, il a fait un signe de croix. Alors, j'ai dit, mais tu es chrétien? Et donc, on a discuté de la foi. Et puis, quand je prenais le bus pour venir à cette émission, je me disais, c'est ça, vraiment, les pauvres, c'est, comme dit Saint-Vincent de Paul, sont nos maîtres. Parce que moi, je suis toujours admiratif de leur, du courage, de l'espérance, de la force qu'ils ont et qu'ils nous transmettent. Alors, d'une certaine manière, ils nous éduquent et ils nous rappellent nous-mêmes quand on traverse des galères, des difficultés, quand on a l'impression de tourner en rond, de ne servir plus à rien. Enfin, toutes ces rencontres, finalement, nous donnent de la joie. Et dans l'Évangile, je pense à deux textes qui touchent beaucoup. C'est la visitation. Voilà, Marie qui va rencontrer Élisabeth qui est cette figure de l'humanité dont... Il n'y a plus rien, il n'y a pas grand chose à espérer, mais finalement il y a une rencontre, ça tressaille, elles sont heureuses. Et puis une autre scène qui est pour moi très, très pédagogique aussi, c'est la rencontre de Jésus avec Bartimée, ce fils de Timée. Il faisait partie du paysage, un monsieur qui était sur le bord de la route, qui criait, et que les apôtres essaient de faire taire, hein, parce qu'il leur casse les oreilles. Et finalement, Jésus l'entend. Il ne va pas directement le chercher, il dit « appelez-le ». Et les mêmes qui essayaient de le faire taire deviennent ceux qui lui disent « confiance, lave-toi, il t'appelle ». Pour moi, c'est une belle expérience de ce que je vis dans l'Église, et dans la société aussi, hein, dans les institutions. On veut faire taire les pauvres, parce qu'ils sont gênants, ils sont pénibles. Mais finalement, quand on fait un chemin intérieur, ça se transforme. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ont le charisme des pauvres et ceux qui ne l'ont pas. C'est les mêmes, ce sont ceux qui sont capables d'exclure, qui sont aussi capables d'accueillir, à condition... qu'en eux se fasse cette opération, cette alchimie que le pape François dit, il faut passer de l'hostilité à l'hospitalité, en particulier avec les étrangers. Passer l'hostilité à l'hospitalité, il y a quelque chose dans notre cœur qui se transforme et qui nous donne finalement de la joie, puisqu'à la fin, Bartimée rejoint l'Église, marche avec les disciples de Jésus. Et Voilà. C'est un peu ça, cette l'expérience de la diaconie, des rencontres improbables, de la joie, de la marche. Et c'est l'exemple du synode. On ne peut pas faire un bout de chemin si on ne le fait pas avec les plus pauvres. Sinon, ce n'est pas de la synodalité, c'est de l'entre-soi, c'est du café du commerce. Alors que si on se met avec les plus pauvres, eh bien finalement, l'Église, comme le dit le Christian Damien Saint-François, ben, elle se répare, elle se reconstruit.
Frère Nicolas Morin, la pauvreté, vous l'avez aussi choisie dans votre vocation en rentrant dans la communauté franciscaine. Vous faites la différence, expliquez-nous entre la misère et la pauvreté évangélique en quelque sorte. C'est pas pareil?
Oui, parce que je suis pas, concrètement, je suis évidemment pas miséreux. Pour moi, il y a deux critères dans ma vie religieuse. Le premier, c'est est-ce que ma maison, notre maison, notre communauté est conçue de telle façon que les plus pauvres y seront à l'aise. Voilà. Est-ce que autour de la table, je suis prêt à accueillir des personnes pauvres et est-ce qu'elles vont se sentir à l'aise chez moi? Ou bien est-ce qu'il y a tellement de choses, etc., qu'elles vont être comme étrangères, comme écrasées parce qu'elles vont trouver chez nous? Et puis la deuxième chose, c'est François parle de ne rien avoir en propre. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il faut rien avoir. Hein. Mais en fait, c'est de ne pas s'approprier les choses, comme les personnes d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui nous rend libre, c'est que je sais que demain, je peux être nommé ailleurs et que je ne vais pas emmener ce que j'ai actuellement. Voilà, je vais partir, je vais être libre. Voilà, il y a cette liberté-là. Hein. Mais j'aurais aimé vous parler de deux types de pauvreté qui aujourd'hui me semblent... faire des ravages. Je posais la question à un groupe d'adolescents en milieu populaire en disant, mais quelle est la carte de tes relations? Sur qui tu peux compter si tu as des difficultés? Et j'étais bouleversé de voir que ces jeunes-là, ils n'avaient personne. Voilà. Et il me semble que la première pauvreté, c'est la solitude, c'est celui de ne pas avoir de relations, c'est-à-dire des gens sur qui on peut compter. Hein, et on sait bien que c'est là notre richesse. Et puis la deuxième chose, je reçois dans le cadre de ma mission beaucoup de personnes en grande difficulté, et beaucoup parmi elles n'ont jamais entendu parler du Christ. Et je me dis que notre société fait une violence terrible à ses membres en les privant de cette rencontre avec cette dimension spirituelle de leur être. Et je me dis que notre mission, elle est aussi là, c'est de les éveiller à cette dimension divine de leur humanité. Et je vois combien leurs vies en sont transformées, vous voyez. On peut agir sur la pauvreté matérielle, hein, mais il y a une pauvreté spirituelle qui détruit tout autant.
Étienne Villemain, pauvreté spirituelle, solitude, misère matérielle, que diriez-vous?
Ça me touche beaucoup ce que vous dites, frère Nicolas. Ouais, les gens ont soif de Dieu, ils sont assoiffés et on leur balance des séries pourries sur Netflix et on lobotomise les gens et surtout on leur balance de l'Instagram, tout un tas de réseaux sociaux pour les empêcher d'ouvrir j'ai l'interprétation que j'en ai, d'ouvrir notre cœur à la dimension du bon Dieu. Moi, régulièrement, j'efface Instagram de mon téléphone et je me dis, prends ton chapelet. Et c'est sûr que c'est nécessaire et vital d'annoncer Jésus et de l'annoncer aux plus petits, aux plus pauvres. Il y a quelques années, avec une équipe, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes pauvres qui avaient même pas accès au sacrement parce que on leur demande de faire un parcours de préparation au baptême et de venir le soir. Et en fait, le soir, ben, ils ont des difficultés avec l'alcool, ils arrivent pas à se repérer dans le temps. Donc le soir, ils sont bourrés, etc. Et donc on a développé un parcours qui s'appelle le parcours Jean-Baptiste. Et il y a des dizaines de personnes qui ont reçu le baptême. Et puis il y a aussi une femme, par exemple, qui est arrivée un jour qui me dit, moi je voudrais être confirmé, mais je dis que, ben oui, mais super, ben, En fait, j'ai réalisé comme un imbécile qu'il fallait écrire une lettre et qu'elle savait pas écrire. Je lui ai dit, mais bouge pas, je vais l'écrire pour toi, la lettre, dis-moi. Et on a écrit 5-6 pages de, elle pleurait et on écrivait les pages. Puis à un moment, j'ai posé toutes les pages. Je lui ai dit, écoute, on va écrire plus simple, on va mettre, Monseigneur, je veux être baptisé et puis tu signes ici. Et ça a été bouleversant. Je me souviens d'un soir où Arthur, qui était un gars africain qui était simplet, on va dire, qui devait venir pour la confirmation, et il s'est pointé une demi-heure après la confirmation parce qu'il s'est perdu dans le métro parce qu'il savait pas lire. Et on l'a fait venir et on a pris l'évêque, on s'est mis tout autour de lui, et l'évêque l'a confirmé. Et je pense que ça devait être comme ça au premier temps de l'église. On était tout en rond autour de lui et c'était bouleversant. Mais j'ai jamais vu une confirmation aussi belle. Elle est gravée pour moi dans mon cœur pour toujours. En fait, si on n'accueille pas les pauvres dans notre église, on va crever. On peut prendre les tabernacles, les arracher, puis la mettre à la porte de l'église. Trop souvent, les pauvres, ils sont à la porte des églises. La place des pauvres, c'est pas à la porte de l'église, c'est au cœur de l'église. Comment est-ce qu'on va permettre aux pauvres de retrouver la première place au centre, et comment est-ce qu'on va pouvoir être autour d'eux et au travers de ces pauvres rencontrer Jésus et évidemment vivre les sacrements avec eux et pas un truc... quelquefois, je me souviens de groupes où on dit... Et attends, on va leur expliquer ce que c'est. Mais en fait, ils savent beaucoup mieux que nous ce que c'est que les sacrements, parce que eux, ils ont une nature. Nous, les pauvres, nous sommes naturellement proches de Jésus et on comprend Jésus.
Et on va continuer d'en parler dans un instant avec vos appels au 04 72 38 20 23. On accueillera Corinne dans un instant d'ailleurs. Vous nous parlez de l'attention aux plus pauvres. Est-ce qu'être chrétien et avoir une attention pour les plus pauvres, c'est indissociable hein, selon vous? Est-ce que l'Église fait suffisamment? Vraie question, on ouvre le débat. Vous pouvez laisser vos messages par mail à direct@rcf.fr. À tout de suite.
Heureux vous les pauvres, vous les gens de rien, vous que l'on écarte d'un geste de la main. Heureux vous les faibles, vous qu'on ne voit pas, vous que l'on méprise, les montrer du doigt. Heureux êtes-vous. Hommes, desserrez les poings, vous les artisans de paix, de douceur, vous les bienveillants, les humbles de cœur, heureux êtes-vous, heureux je nous. Yeah.
pour qu'en la voyant les hommes glorifient votre Père. Bientôt votre histoire va commencer, bientôt vos chagrins seront effacés.
Voilà un extrait du dernier album de Grégory Turpin sur RCF. Heureux êtes-vous ?
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Pauline de Torsiac.
Avec frère Nicolas Morin, vous êtes franciscain à Besançon, Gilles Robèche, vous êtes diacre depuis 40 ans et fondateur de la Diaconie du Var, et Étienne Villemain, fondateur de Lazare. Bonjour Corinne.
Bonjour Melchior, bonjour à vos invités.
Bonjour Corinne.
On vous écoute.
Voilà, eh bien, c'est vrai que Jésus, il a quand même une grande complexité de réflexion en fait. Hein. Mmh. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il parle des pauvres, des plus pauvres ? Parce qu'il s'occupe aussi un peu pas de Lazare, mais de Zachée, etc. Et moi je me dis, en fait, quand on vient au monde, on vient dans une extrême, extrême dépendance, une extrême pauvreté, dépendant de tout, de l'accueil, de la nourriture, du manque de plein de choses. Et ça, c'est pour tout le monde, pour les riches, les pauvres, c'est de vivre le dépouillement le plus complet, de carrément faire confiance dans ce qui va arriver.
Mmh. Eh ben merci Corinne,
pour témoignage.
Ce témoignage au 04 72 38 20 23. Qui veut réagir ? Tiens, Gilles Robèche, qu'est-ce que vous en pensez de ce témoignage ?
Bien, ce qui est évoqué dedans et qui parle, on peut dire, de la richesse de la pauvreté, selon l'expression de Sœur Emmanuelle, c'est que les personnes en précarité et la pauvreté qui nous touche tous nous invite à faire de notre existence un pèlerinage de confiance. Confiance en l'autre, confiance dans les talents, les ressources que nous a donné le Seigneur et confiance en Dieu lui-même. Donc, faire de sa vie un pèlerinage de confiance, d'une certaine manière, c'est l'attitude du croyant. On dit d'Abraham, le père des croyants, qu'il a pris la route sans trop savoir où il allait. Et Saint Grégoire de Nice dit, Abraham ne savait pas trop où il allait, c'est pour ça qu'il savait qu'il était sur la bonne route. Et bien, c'est un peu l'expérience que font tous les gens en précarité, c'est que souvent ils ne savent pas trop où ils vont, mais finalement, au bout d'un moment, dans ce désarroi, dans cet inconnu, ils font de leur vie un pèlerinage de confiance. Et parfois, il y a des fruits, on parlait d'évangélisation tout à l'heure, pour moi, l'évangélisation, c'est d'abord plus la moisson. Les plus pauvres ont une expérience spirituelle incroyable, et souvent, s'il n'y a pas à côté d'eux des hommes et des femmes qui les aident à moissonner ce travail intérieur, eh bien ça pourrit sur la tige. Il faut les aider à réaliser que tout ce qu'ils font, c'est finalement quelque chose de très beau. Je me souviens, là, il y a quelques semaines, je célébrais des obsèques au cimetière d'un sans-abri, d'un foyer d'hébergement là, de Logivar, dont le directeur parlera tout à l'heure. Et cet homme avait eu une existence de rue, puis on se demandait à quoi ça a servi d'aller dans un foyer pour mourir comme ça. Et quand on arrive au cimetière, il y avait 3 ou 4 copains d'infortune, dont certains étaient un peu éméchés. Et tout à coup, on nous amène un deuxième cercueil. Alors je me demandais ce que c'était. Et les pompes funèbres me disent, on avait une dame qui était sous tutelle, une personne âgée, depuis plusieurs mois, à la morgue. Ça nous faisait drôle de l'enterrer comme ça, et on a su que vous faisiez ces obsèques. Alors, on a amené le deuxième cercueil. Alors, c'était totalement inédit, insolite, mais finalement, on se retrouvait dans ce cimetière. Mmh. Et je disais que ce Roger-là qui était décédé, finalement, même dans la mort, il permettait à ce qu'une prière soit partagé pour une personne qu'il n'avait pas connue. Et Et finalement, on n'était que 4 ou 5 dans ce cimetière, mais j'avais l'impression de vivre une expérience d'humanité hors du commun. Et je me suis souvenu ce que dit le grand anthropologue Coppens, là, qui a découvert Lucie. Il disait, lui, l'homme est devenu l'homo sapiens, il n'est plus devenu une horde quand il a été capable de s'arrêter pour enterrer ceux qui étaient trop fragiles, pour pratiquer des rites à l'égard des malades, de ceux qui n'arrivaient pas à avancer au rythme des autres. Et j'avais l'impression, dans ce moment-là, tout simple, de moissonner une expérience d'humanité universelle dans quelque chose qui aurait pu sembler totalement banal, enfermé. Donc, je veux dire, les plus pauvres, finalement, nous apprennent à grandir en humanité et à vivre des expériences d'humanité.
Les plus pauvres sont des évangélisateurs, Étienne Villemain.
Oui, je pense qu'ils nous aident à vivre profondément de l'évangile. Ils nous aident à accueillir Jésus. Je pense qu'ils nous aident à accueillir le Jésus lui-même, Jésus qui s'est fait le plus pauvre. Le témoignage de cette dame tout à l'heure disait on est dans une immense pauvreté. Et aussi, je pense qu'on meurt dans une immense pauvreté. Et peut-être que quand on a 30, 40 ans, on se dit c'est bon, on va foutre le feu au monde et tout ça. Mais on voit bien que, au bout d'un moment, on décline, on s'appauvrit, on s'affaiblit. Et on voit bien aussi que le matériel est futile et que petit à petit, chacune de nos vies est fragile. Et en fait, le pauvre, c'est quelqu'un qui est fragile en permanence. Et voilà, je suis touché par toutes ces personnes pauvres. Je pense à Rabat. Un jour, on était à la maison et c'était mon coloc et mes parents viennent pour la première fois partager le repas. Et Rabat dit à mon père, « Père, tu veux prendre un petit peu de salade ?» Et puis il se tourne vers ma mère, « Mère, tu veux un petit peu de quiche ?» Et puis ensuite, de nouveau, « Mon père, tu veux un peu de pain ?» Et ensuite vers ma mère, « Tu veux un peu d'eau ?» Et à un moment, il s'arrête et dit, « Père, tu sais pourquoi je t'appelle père ?» Et il se tourne vers ma mère et dit, « Mère, tu sais pourquoi je t'appelle mère ?» Alors mes parents haussent des épaules, ils savent pas trop. Ils se tournent vers moi et disent, « Parce que lui, c'est mon frère. » Et je trouve que c'est magnifique de voir que ces personnes fragiles, pauvres, font de nous des frères. J'aime bien ce que vous disiez tout à l'heure, frère Nicolas, que en fait on doit se laisser aimer et accueillir par les pauvres et on marche au même chemin, sur le même chemin. Il n'y a pas d'une posture de condescendance ou de descendance. On est ensemble et on marche sur le même chemin. Et c'est quelque chose qui est surprenant parce que quand on le dit et qu'on n'en vit pas l'expérience, on se dit « Oh, tout ça, c'est des belles paroles ». Mais essayons de vivre cette expérience de marcher avec un pauvre. Moi, je me souviens que je marchais à côté d'Yves et je marche très vite. Parce que je suis speed, il faut que ça avance. Et Yves, il marche comme une tortue. Et qu'est-ce que c'était difficile pour moi de marcher au rythme d'Yves. Mais petit à petit, hop, on marche au rythme d'Yves. Voilà, je me souviens d'une fois, la première fois où je rencontre Yves, il arrive dans notre coloc, et je dis, oh là là, les mecs, regardez sous vos pieds, il y a quelqu'un qui a dû marcher dans la... Et là, je réalise qu'il s'est fait dessus et il est dans une telle dépression qu'il est incapable de se laver. Et alors là, je suis pris de honte et je lui dis, viens Yves, je lui donne un jean et un caleçon. Et puis je lui dis, si tu veux, tu peux aller te laver. Et puis il va se laver. Et puis ensuite, je prends son jean, je commence à le laver et il se rapproche de moi. Il dit, fais pas ça. Et là, je lui dis, Yves, tu sais, le prix que tu vaux, c'est pas le nombre d'amis que tu as, c'est pas le salaire que tu touches ou que tu touches pas. Le prix que tu vaux, c'est le prix que quelqu'un a payé pour toi. Et ce quelqu'un, il a payé le prix de son fils qui est mort sur la croix pour toi. T'as un prix infini aux yeux de Dieu et tu dois prendre soin de toi parce que tu es respectable. T'es infiniment respectable. Et voyez, cette parole, je sens qu'elle venait pas de moi, qu'elle venait de beaucoup plus loin que de moi. Et je pense que en vivant avec les pauvres, l'Esprit Saint nous guide. Vous voyez, je suis persuadé que on est des indignes serviteurs, bien incapables de faire ce qu'on doit faire. Mais par la confiance que nous fait l'Église, par les sacrements qu'elle nous donne, l'Église qui est experte en humanité nous confère cette expertise et nous révèle quelque chose qui nous aide à être vraiment des témoins de l'amour de Dieu. Et voilà, on est des pauvres et indignes serviteurs, on n'a pas fait grand-chose, mais ce qu'on devait faire, on a essayé de le faire du mieux qu'on pouvait.
Alors vous parlez chacun de votre expérience justement à l'égard des plus fragiles, des plus pauvres, mais est-ce que si on prend l'Église avec un grand E, est-ce qu'elle donne cette juste place aux pauvres aujourd'hui? Étienne, tout à l'heure vous parliez de cette forme de condescendance, ça peut aussi, on peut se faire plaisir en aidant les pauvres parfois. Est-ce que, voilà, comment vous voyez justement ce rôle de l'Église aujourd'hui? Est-ce que elle assume cette mission à l'égard des pauvres, vraiment? Père Nicolas Morin.
Pour moi, c'est une grande souffrance aujourd'hui. Regardez la composition socio-professionnelle de nos communautés chrétiennes. Où sont les pauvres dans nos communautés? Et c'est vrai que pour moi, c'est une des grandes souffrances de voir que petit à petit, souvent, ce sont les quartiers populaires les premiers délaissés par l'Église. Voilà, il y a moins de prêtres, alors où est-ce qu'on met les prêtres? On les met là où il y a une communauté vivante, et souvent les communautés vivantes, c'est les communautés des chrétiens qui sont les plus éduqués, qui sont les plus... Alors souvent, ce sont des chrétiens et chrétiennes qui sont très généreux, qui font beaucoup de choses pour les pauvres, mais les pauvres, ils sont pas dans nos communautés. Et je me dis, mais ça, c'est pas l'Église, quoi. Et comment est-ce qu'on fait pour que nos communautés soient capables de se rendre accueillantes et fraternelles aux plus pauvres? Comment est-ce qu'on fait en sorte, Étienne parlait de marcher au pas d'un pauvre, mais c'est ça. C'est-à-dire que naturellement, en fait, on en fait évidemment pas, c'est pas volontaire, mais naturellement parce qu'on a l'usage de la parole, parce qu'on est habitué, etc. On prend toutes les responsabilités dans la communauté. J'ai reçu une belle leçon de cette petite dame portugaise qui un jour vient me voir et puis me dit à la fin de la messe, mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui font la procession des offrandes et moi, pourquoi j'ai pas le droit de le faire, quoi. Voilà. Et je me dis, ces personnes-là qu'on n'entend jamais dans nos communautés, voilà. Comment on va faire pour qu'elles prennent leur juste place?
Je vous lis un message d'Anne-Marie. Anne-Marie, elle commence son mail en disant « Comment être avec eux en empêchant qu'il et elle, surtout d'ailleurs, le deviennent ?» Et donc, être avec tous ces inconnus, semble-t-il, de l'Église qui lutte contre le devenir pauvre, syndicat spécialement. Lutter contre les salaires dérisoires, c'est lutter contre la pauvreté des familles, des enfants et bien entendu des retraités. Car salaire bas fait des salariés et travailleurs pauvres qui amènent tout droit aux retraités pauvres avec tous ces cortèges de malheurs qu'on peut voir ici et là. C'est un intéressant, je trouve, Gilles Robèche, ce témoignage d'Anne-Marie. Il y a un volet politique. Est-ce que le chrétien doit avoir ces convictions politiques aussi pour défendre les pauvres?
Mais quand on parle de la diaconie, justement, on ne met pas de côté du vocabulaire comme la solidarité, la compassion, la charité. Mais la diaconie, c'est une manière de parler de cette mise en œuvre de la pensée sociale de l'Église qui dit qu'on ne doit pas donner sous forme de charité ce qui est dû en justice. Et donc là, c'est pas incompatible, hein. c'est pas du « ou », c'est du « et ». Il faut faire les choses ensemble. Et par rapport à la question du début aussi que posait Pauline là, sur la place des pauvres dans l'Église, je pense qu'aujourd'hui l'Église, elle traverse une épreuve, une remise en cause très, très, très pénible avec la crise des abus. Et je pense qu'il y a une manière de se situer à l'égard de la parole des victimes, qui est un peu de la même chose par rapport à la parole des pauvres. On fait pour eux, mais leur parole n'est pas toujours écouter à sa juste mesure. Mais il y a quand même des signes d'espérance. La chance avec le réseau Saint-Laurent d'être présent à la conférence des évêques à Lourdes au moment où était abordée cette question des abus et où il y avait des victimes qui étaient là au milieu de l'assemblée. Et je me souviens d'un repas à table où il y avait des évêques, des personnes du Quart-Monde et puis même une personne victime. Et deux dames parlaient un peu à haute voix, comme le quartier populaire. Et je voyais en face de nous deux évêques, les yeux exorbités. Et les dames disaient, mais il faut les comprendre, ils viennent de milieu, ils ne sont jamais tombés si bas. Alors ils ne savent pas comment se relever. Et finalement, je voyais que finalement ces évêques, en écoutant ces deux dames du Quart-Monde, n'étaient pas sidérés, mais retrouvaient un élément de confiance pour oser avec courage ensuite faire cet acte de, en premier temps, acte de repentance. Donc, c'est vrai que c'est difficile de trouver la place des pauvres dans l'Église, parce que d'une certaine manière, l'Église est, comment dire, organisée de manière systémique pour pas que les pauvres y soient vraiment. Mmh. Et on se trompe de centre. Le centre est souvent à l'extérieur. Et c'est l'objet, justement, de la diaconie, du mouvement Fratello, du réseau Saint-Laurent, de ce grand pèlerinage qui aura lieu cet été à Lourdes avec le festival Saint-Laurent, d'essayer de créer et d'encourager, en France en tout cas, dans tous les diocèses, ces petites expériences où les pauvres ont la parole, donnent leur avis sur les questions d'actualité, mais aussi se sont confrontés dans la fraternité à la lecture de l'Évangile. Et peuvent aussi donner leur avis sur la manière de transformer l'Église. Mais ça, c'est pas si simple, ça demande des conditions, de la même manière que les victimes ont besoin d'espace pour que leurs paroles soient entendues et exprimées. Les pauvres ont aussi besoin de lieux qui leur permettent de se sentir respectés, reconnus, et pas simplement instrumentalisés, assistés, et pris en compte de manière technique. Ils ont besoin d'être pris en compte de manière relationnelle et spirituelle.
Étienne Villemain.
Il me semble que on parle pas mal des pauvres, mais au fond, nous-mêmes, nous sommes pauvres. Et très souvent, on a peur des pauvres quand on est dans l'Église, parce qu'on a peur qu'ils nous filent leur pauvreté. On a peur de leur ressembler et de devenir à notre tour pauvres. Mais au fond, on est tous pauvres. Et donc, il n'y a pas les pauvres d'un côté, les riches de l'autre. Même dans nos églises qui semblent bourgeoises, combien de pauvreté, de personnes âgées isolées, etc. La chose est sûre, il faut être missionnaire pour que ceux qui sont sur les périphes de Paris, les périphéries de nos vies, puissent avoir et se sentir accueillis. Il me semble que je me souviens quand j'ai demandé au pape la journée mondiale des pauvres, puis après il y a des gens qui sont venus me voir en disant « Pourquoi t'as dit la journée mondiale des pauvres ? C'est stigmatisant, les pauvres, etc. » En fait, au travers du mot « pauvre », il y a quelque chose de sacré. C'est un mot magnifique, c'est un mot... il faut retrouver la sacralité du pauvre. Autrefois, quand il y avait un pauvre, le père abbé lui lavait les pieds et on considérait que c'était Jésus. Et puis petit à petit, l'Église s'est organisée, s'est structurée. Il y a eu les frères qui sont occupés des pauvres, les sœurs des enfants aveugles, etc. Puis petit à petit, on est passé de quelque chose qui était du sacramentel au vocationnel, de la vocation au professionnel, et puis on est passé du professionnel à l'institutionnel, et aujourd'hui les pauvres sont considérés comme des numéros numéros de sécurité sociale, des statistiques, et on a perdu la dimension sacrée. Mais au travers du mot pauvre, il y a quelque chose de sacré, et il faut retrouver cette sacralité, et il faut que chacun de nous accueille les pauvres. En fait, on peut dire l'Église n'accueille pas les pauvres, c'est pas bien, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour accueillir ma propre pauvreté, et comment j'ai pu accueillir aujourd'hui la personne fragile à côté de moi? J'invite maintenant les auditeurs à réfléchir une seconde et à penser à un pauvre qui est autour d'eux, dans leur environnement, etc., et de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire cette semaine, aujourd'hui même, pour lui. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec lui? Pas un truc où c'est condescendant et où je vais servir de la soupe à un pauvre, mais un truc où je vais être en relation et où je vais passer du temps et je vais vivre un instant avec lui.
Merci beaucoup à tous les trois. Convertir son regard sur les plus pauvres, c'est ce qu'on le retiendra de vos trois témoignages. Merci beaucoup frère Nicolas Morin, vous êtes franciscain à Besançon. Merci de votre témoignage. Gilles Rebèche également, merci, vous étiez à Toulon, vous êtes diacre, vous êtes le fondateur de la diaconie du Var. Et puis Étienne Villemain, merci aussi de votre témoignage. Vous menez un nouveau projet aujourd'hui, le village de François, un lieu de vie justement, un lieu de vie partagé pour les personnes fragiles. Merci. On continue de parler de pauvreté.
Et merci vraiment aux équipes de Besançon, Paris et Toulon ce matin qui vous accueillaient sur place en studio pour réaliser ce quadruplex. On était nombreuses ce matin. Merci Pauline. Oui, dans un instant, en fait, on va prendre des illustrations très concrètes de ce qu'on appelle la diaconie. La diaconie qui organise cette charité avec un vaste réseau associatif. On va prendre quelques exemples dans un instant et vos témoignages toujours au 04 72 38 20 23. Par mail à direct@rcf.fr et on vous attend dans le groupe Facebook, je pense. Donc j'agis, à tout de suite.